Les paysans dans la modernité, un article de Estelle Déléage. Cet article montre, à partir de l'exemple de l'agriculture paysanne, telle qu'elle est définie aujourd'hui en France par le syndicat agricole et de la, agricole, la Confédération paysanne, en quoi ce type d'agriculture, qui renoue en partie avec la tradition et est plus moderne que l'agriculture productiviste, qui s'en est totalement émancipée. Let's go ! Ah, il va être trop bien l'article. L'article va être une dinguerie, je suppose. J'ai déjà instant hâte. Introduction. Contrairement à l'idée communément admise par les turiféraires, je ne connais pas ce terme, par les turiféraires de la modernisation de l'agriculture, la fin des paysans annoncée depuis plus de 40 ans, en particulier dans les pays occidentaux, est loin de constituer une fatalité. Au contraire, alors que cette dernière est souvent présentée comme un processus irréversible, elle est en fait indissociable de la mise en œuvre d'un modèle de développement qui considère qu'au nom du progrès, les paysans sont des éléments extérieurs à la modernité, c'est-à-dire condamnés à disparaître. Ah ouais, attends, on pense comme ça ? Je savais même pas qu'on pensait de cette manière-là. Turifère égale bandeur, ok. Rizotic a parfaitement compris comment il faut me parler. Je pense à un truc un peu insolite qui pourrait t'intéresser. Bah, mets-le dans le chat, Glick, pas de soucis. Hein. À l'aube du XXIe siècle, la poursuite quasi silencieuse de la diminution du nombre d'agriculteurs et la multiplication des problèmes environnementaux et sanitaires liés au développement d'une agriculture manufacturière, révèle les limites du processus sans fin du modèle de développement agricole mis en œuvre depuis les années 50 et 60, en particulier en France. On pense à la Révolution verte. J'ai découvert une musique que j'aime beaucoup, White Awakens, Razile Denide. Si tu veux avoir les infos du groupe, si tu veux avoir des choses très étonnantes, je te remets là, tu feras ce que tu veux. Ouais, vas-y, je note. Hop, je note ça et j'irai checker ça. Merci pour le partage. Je connais pas le truc, hein, donc. Cette association sémantique me laisse songeur. Ouais, du coup, je disais par rapport en 1950-1960 en France, il y a la Révolution verte qui pose beaucoup de problèmes, enfin, qui a permis de produire beaucoup, beaucoup de légumes, mais qui a posé des gros, gros problèmes sur le long terme dans les surfaces agricoles. Par ailleurs, dans le contexte de maintien du processus de modernisation de l'agriculture, un certain nombre d'agriculteurs qui s'identifient eux-mêmes comme paysans continuent à habiter autrement l'espace et le temps. Ils remettent ainsi en cause une certaine modernité qui, au nom du développement tel qu'il a été construit et pensé par la société occidentale, assure de moins en moins la transmission aux générations futures d'un patrimoine commun. Ah, voilà, on revient sur le rapport au commun et comment malheureusement ce rapport au commun a été abandonné, en tout cas, enfin, mis de côté. Et c'est vrai que c'est un discours qui pourrait permettre d'être beaucoup plus unificateur dans la politique actuelle. Mais malheureusement, bien trop mis de côté, quoi. Comme nous allons le montrer, c'est en ce sens qu'ils sont probablement plus modernes que les agriculteurs qui persistent à être des entrepreneurs agricoles et qui, de ce fait, se considèrent comme les seuls représentants de la modernité dans l'agriculture. Ça va être hyper intéressant, le rapport modernité, là. Une figure dichotomique du paysan et de l'agriculteur. Le terme paysan est attesté dès 1155, avec le sens étymologique de « personne qui habite le pays autochtone ». S'il désigne également depuis le XIIIe siècle la personne qui habite la campagne et cultive la terre, il est largement employé au sens péjoratif de « nigo, rustre, imbécile », par contraste avec les termes comme « cultivateur » dès 1360 ou « agriculteur » dès 1495, qui n'ont pas cette connotation péjorative ou soulignent la dimension économique de l'activité propre à la culture des champs. Ok, tain, c'est grave intéressant ça. Et c'est vrai qu'on en parle plusieurs, on en a déjà parlé, et on m'avait déjà dit à un moment le terme, bam, tu feras gaffe, il existe aussi le terme cultivateur, et c'est vrai que je l'ai assez rarement entendu, et bah voilà, comme ça je vois le rapport à dire, tiens, cultivateur, c'est un terme, entre guillemets, enfin, c'est pas vraiment vrai, mais une forme un peu de bourgeoisie, quoi, de dire une forme respectable, on va dire, voilà. En mode cultivateur, c'est le terme respectable des paysans. L'utilisation du terme paysan est ainsi tantôt associée à une image positive, celle du rattachement à un pays ou un terroir, tantôt à une image négative, celle du bouseux, du cutéreux ou du plouc. Ok. Et c'est vrai que ça, des fois, je le vois un peu quand je dis... moi, quand je dis que j'aimerais devenir paysan, les gens, ils sont en mode... Tu sais, il y a un petit blocage en mode... Ah, ça, c'est bizarre, tu vois, comme de dire ce terme-là. Mais voilà, c'est vrai que c'est quelque chose qui... J'ai déjà un peu observé de loin, donc... et encore, j'ai une sociologie qui pourtant passe inaperçue. Mais du coup, ça, quand t'es un peu, bah, quand t'es un mec de la campagne et que tu dis que t'es paysan, c'est vrai que tu peux passer, enfin, il peut y avoir une forme de violence, quoi. Après, là, c'est à l'époque, hein. mais je pense que ça perpétue encore dans ce temps, malheureusement. Si l'usage dévalorisant du terme de paysan est ancien, il s'est considérablement accéléré depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte économique et politique très défavorable à l'agriculture telle qu'elle se pratiquait alors. Voilà, donc ça, je suis clairement d'accord. Et c'est vrai que quand je dis ça, en fait, paysan, il est en train de redevenir, entre guillemets, positif grâce aux néo-ruraux. Il y a un peu une forme de gentrification, je sais pas si on peut dire ça, mais en gros, le terme paysan devient presque plus... Enfin, il se transforme presque en un terme un peu néo-rural, un peu bobo, quoi. Ce qui est pas forcément la meilleure des choses. Encore à nuancer, en vrai, à nuancer ce que je dis. Je suis un cutéreux perso et les urbains le remarquent vite. Oui, ben moi en vrai, Erosim, alors là, j'ai eu mon accent a beaucoup diminué, mais quand j'étais en gros en Picardie et que je suis allé à Bruxelles, les gens me le voyaient tout de suite que j'étais un campagnard, tu vois. Et c'est vrai que tu le. Enfin, t'as un habit. En fait, il y a un habitus de la ruralité, il y a un habitus dans les paysans, et c'est vrai que ça se ressent, et du coup, ce métier-là qui a été beaucoup mis en retrait a subi une grosse force, un fort mépris, du coup, bien sûr qu'il y a cette négligence qui est mise en place, quoi. À cette époque, la France n'est pas autosuffisante sur le plan alimentaire et il est nécessaire de reconstruire le pays. Par ailleurs, le mode agricole est largement associé à la corporation paysanne, syndicat agricole créé par le régime de Vichy, et donc à une vision anti-urbaine, anti-industrielle, c'est-à-dire anti-moderne. Ok, oh, je savais pas, dinguerie ça. C'est dans ce double contexte économique et politique que le projet de modernisation de l'agriculture et par conséquent celui de la transformation des paysans, habitants d'un pays et cultivant la terre, en agriculteurs modernes, cultivant la terre pour la valoriser économiquement, prend forme. Ok. Donc il y a bien, voilà, transmission des communs à « je produis de la richesse ». Ce projet a été porté par les jeunes agriculteurs du Centre National des Jeunes Agriculteurs, CNJA, puis par ceux de la Fédération Nationale des Syndicats d'Exploitants Agricoles, FNECA, ah bah tiens, c'est-à-dire par des hommes issus du SNJA, dans le cadre d'une co-gestion avec l'État. Donc là, on retombe déjà sur la FNECA. L'objectif de ces jeunes agriculteurs formés à la Jeunesse Agricole Catholique, JAC, était de construire une agriculture familiale moderne. Il s'agissait par conséquent de permettre à ceux qui étaient encore des paysans de s'émanciper de la vie considérée comme routinière des générations précédentes en accomplissant le projet de maîtrise inhérente à la modernité. Putain, c'est grave intéressant! Je vais tout souligner, mais c'est une dinguerie en fait. À partir des années 70, ce projet s'est rompu lorsque la volonté de maîtrise s'est affranchie du projet d'émancipation qui lui est associé, lorsque l'agriculture est devenue un processus de rationalisation technico-économique. Autrement dit, il ne s'agissait plus que de produire pour produire. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le productivisme. Ok. Article très très bien. N'ayant habité que dans l'agglomération lilloise et parisienne, puis-je me considérer comme un urbain? Lille... En vrai, Soural, c'est à toi de le ressentir comme tel. Hein. C'est, tu le sens si t'es citoyen ou pas, tu vois. Mais quand t'es en banlieue... Enfin, moi, j'étais en banlieue. Moi, j'étais dans une ville en Picardie. Bah, ça doit être une ville... qui est une forme un peu citadine, ça reste quand même une ville en campagne, tu vois. Donc Lille, en vrai, Lille est un, même si c'est ça a failli être la région, la capitale de la région, Lille reste quand même une ville qui est peut-être moins vivante que peut l'être par exemple Lyon ou Montpellier ou Paris, tu vois. Urbain, ça veut rien dire, rien à voir entre un bobo, un banlieusard, etc. Ouais, urbain, c'est pas, bah ça veut tout rien dire quoi. J'habite à Lille, j'ai pas de voiture et j'ai accès à tout, donc oui, c'est une ville urbaine. Ok, bah. Voilà, je pense que c'est une bonne définition. Après, voilà, c'est une ville urbaine, mais qui reste dans la campagne. Et du coup, bah, quand tu vas aux alentours de Lille, il y a quand même des habitudes que tu ne verras pas autour de Paris, par exemple. Tu vois. Enfin, tu verras peut-être plus loin autour de Paris, parce qu'en vrai, tu les retrouves aussi, mais tu les verras, ils seront peut-être un peu plus éloignés. En vrai, je sais pas trop comment le situer, le côté urbain, citadin, etc. Le projet humaniste des jeunes agriculteurs est ainsi en partie devenu processus avec le triomphe de la rationalité instrumentale sous toute autre forme de rationalité. Et c'est vrai que ça, je l'entends souvent en mode « Oui, mais regardez, c'était l'après-guerre, il fallait nourrir le pays, du coup, c'est bien ce qu'ils ont fait, tu vois. » Ah, il y a un lobby derrière quand même. Depuis la fin des années 70, cette rationalité instrumentale participe au déploiement d'une modernité que l'on peut qualifier de technoscientifique ou industrielle et qui repose sur trois éléments. L'idéologie du progrès technique, la division du travail et enfin la spécialisation concomitante de l'activité agricole. Voilà. Donc en gros... La logique qui a dominé tout le pouvoir, enfin qui a dominé toutes les populations subalternes enfin les prolos et compagnie, on divise le travail, on exploite et on se croit moderne, alors qu'en vrai de vrai, ça permet juste d'installer le capital. En gros, cette logique-là a juste permis de dire au capital, venez les bras ouverts, vous pouvez vous installer. Cette modernité technoscientifique qui caractérise le productivisme agricole doit donc systématiquement être distinguée du projet originel de la modernité qui associe l'idée de maîtrise à celle d'émancipation et d'autonomie. Ok, c'est intéressant ça. Malgré cet emballement du projet moderne et sa transformation en processus unique et de rationalisation, les défenseurs de la modernité technoscientifique ont continué à le promouvoir. C'est ainsi au nom du déploiement de l'entrepreneur agricole ou de l'exploitant agricole, dans la perspective ouverte par l'économie libérale, ou au nom du développement des forces productives, dans une perspective marxienne, que de nombreux chercheurs ont accompagné dans les années 60 et 80 l'émergence des agriculteurs modernes en contribuant par là même et de manière définitive à déqualifier les paysans traditionnels qui ne représentaient selon eux que l'antimodernisme. Et ça c'est tellement réel. Et c'est pour ça que j'aime bien le bouquin de Fukuoka, même s'il passe un peu pour un technophobe, mais en vrai il était lucide sur cette question-là, quoi. Il était vraiment vraiment lucide. Lille, troisième ville étudiante en France, 240 000 habitants, et c'est que des villes autour, c'est une mégalopole. Ah ok, Cyril, ok, bah my bad. Du coup, je dis des bêtises alors. C'est vrai que moi, Lille, enfin, je sais pas pourquoi. En gros, parce que mes proches, ils vivent à Arras et Lille, et j'ai tendance à dire que Lille, ça c'est proche d'Arras, enfin, tu sais que ça représente Arras. En vrai, non, justement, Arras, c'est plutôt la ville un peu plus campagnarde, et Lille, c'est plus la mégalopole. Ouais. Tiens, j'en profite dans le chat, c'est quoi la définition de campagne, campagnard? Bah, campagnard, c'est qui vit en dehors de Paris, en vrai, j'ai l'impression. Enfin, moi, je le vois comme tel, en dehors de Paris et en dehors des grandes villes, enfin, ouais, que tu dis les grandes mégalopoles, je sais pas si c'est le bon terme, mais des grandes villes, genre Lille, Lyon, Montpellier, ouais, truc comme ça, tu vois. Bordeaux, je sais pas, je le verrais comme tel. En vrai, ça défend, je sais pas comment on pourrait le définir. C'est intéressant. J'avoue, moi, je le pense plus comme en dehors de Paris et en dehors des grandes villes, quoi. Cette déqualification a par ailleurs largement été intériorisée par les paysans eux-mêmes, et en particulier par les petits paysans, marginalisés par la transformation de l'agriculture d'après-guerre, qui ont progressivement assimilé l'image redevenue négative du terme paysan. Et même aussi parce que la PAC a dû jouer là-dedans, parce que la PAC, politique agricole commune, les a clairement réduits à peau de chagrin avec les aides, et du coup ils ont subi le système, quoi. Comme l'écrit Pierre Bourdieu, entre tous les groupes dominés, la classe paysanne est l'exemple par excellence de la classe objet, contrainte de former sa propre subjectivité à partir de son objection. Il est significatif que la représentation dominante soit présente au sein même du discours dominé, dans la langue même avec laquelle il se parle et se pense, le bouseux, le cutéreux, le pecno, le plouc, le péouze, etc. Ouais, en gros, je sais pas si on peut dire autoflagellation, mais la réduction de son humanité à des termes péjoratifs, quoi. Et on va lire cet article de Bourdieu prochainement. C'est donc au nom de l'universalisme et de l'égalité des citoyens que furent démantelées les communautés paysannes et leur particularisme, comme l'a très bien montré le sociologue Yves Dupont, reprenant, en l'appliquant aux sociétés paysannes, l'analyse d'Alexis Tocqueville à propos de l'avenir muré des Indiens et des Noirs d'Amérique sous l'effet de la passion de l'égalité propre à l'institution démocratique. Ça a l'air grave intéressant, ça. En France, le travail politique d'ensauvagement ou d'indianisation des paysans, de dévalorisation, de condamnation et de pénalisation de la plupart de leurs pratiques économiques, sociales ou culturelles, se réalisa de manière moins brutale et plus consciente, ou plus exactement, plus discrète et plus institutionnelle que militaire, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors en vrai, et là, vous voyez, je réfléchissais, moi, à créer des discours pour connecter justement la banlieue et la ruralité. Ben oui, c'est un truc tout con, hein. Mais le terme d'avoir utilisé le terme d'ensauvagement, il y a, je sais pas si on peut faire une connexion, ou est-ce que là, c'est juste, j'ai vu un terme et du coup, je me dis, ah, on peut faire une connexion. Mais je trouve ça intéressant, le terme ensauvagement. Après, voilà, c'est un concept qui a été utilisé par quelqu'un, donc ça n'a pas la même valeur, évidemment. Mais voilà. Je comprends mieux si pour vous, vivre dans une ville, c'est être de la campagne, ça explique bien la rupture entre campagne et ville. Après, voilà, après ça dépend, il y a plein de gens qui auront des différentes visions, mais moi j'avoue, être à la campagne, en gros, bah, tu vois, quand je vivais à Amiens, au fin fond de la. Enfin, à Amiens, au milieu de la Picardie, même si c'était une ville qui était assez voilà, la ville en elle-même était citadine, ça restait une ville de campagne, genre, où il y avait bah, pas grand-chose. Que Lyon, ça reste une ville où il y a beaucoup beaucoup de choses. Donc pour moi, la banlieue lyonnaise, c'est quelque chose qui est pas campagnard, tu vois. Par contre, si tu es genre plus Saint-Étienne, je peux peut-être plus considérer ça comme campagnard, tu vois. Mais voilà, après, bon, c'est des cases sociologiques, enfin, c'est des cases, même pas sociologiques, c'est des cases qui ont. C'est toujours compliqué de dire les définitions exactes, quoi. Selon les principes de l'inclusion universalisante, on a donc dévalorisé, déraciné, voire éliminé le paysan. Cette inclusion universalisante repose sur une conception gestionnaire, désincarnée, déshumanisée du politique qui s'apparente à l'idéal type de la domination légale rationnelle weberienne. Ah, ça m'intéresse, ça. J'aime bien le côté gestionnaire désincarné. Ça me fait penser à du Deleuze, ça m'intéresse. En France, elle correspond à la domination des agriculteurs par la sphère étatico-professionnelle et par le marché, donc la bureaucratie. Cette dernière a permis la mise en œuvre d'un modèle agricole qui s'est structuré dans les années 60 et 80 à partir des trois éléments propres à la modernité technoscientifique. Et on l'a vu, hein, les éleveurs, etc., qui subissent et qui se font harceler par la bureaucratie et par la technocratie. Cette domination a été bien décrite par Henri Mendras, à qui l'on doit une théorie sociologique des sociétés paysannes montrant, de manière idéale typique, comment et pourquoi en Occident et en Europe en particulier, l'activité agricole a été perçue de l'an 1000 à l'an 2000 comme l'activité propre à ce type de société. Oh putain, ça m'intéresse de ouf ça. Ah ça y est, je vais être bandeur, je sens que je vais finir bandeur de sociologie paysanne, et je vais écrire plein de trucs là-dessus, je vais lire plein de trucs là-dessus. Je suis en train de vriller. Selon Mendras, la caractéristique de ces sociétés paysannes est de bénéficier d'une autonomie relative au sein de la société qui les englobe. Elles fonctionnent donc pour l'essentiel au sein de collectivités locales qui sont structurées par des relations interconnaissances, de parenté, de voisinage. Ok, on est d'accord. En outre, ces sociétés paysannes ont pour objectif essentiel de reproduire une activité de production-consommation qui est assurée au sein des groupes domestiques, c'est-à-dire de la famille élargie aux individus non parentés partageant le même foyer. Ah, et ouais, ça, je suis clairement d'accord avec ça. Le rapport, justement, au commun, au vivant, et comment tu structures les relations en dehors du noyau familial, famille nucléaire, quoi. L'économie paysanne s'inscrit donc dans un projet qui repose sur une rationalité d'ordre social et moral, sur une rationalité en valeur selon les termes weberiens, dont l'objectif primordial est de produire ce qui est nécessairement aux besoins de la famille. Alors du coup, attendez, est-ce que c'est famille élargie, on est d'accord, hein. Individu non apparenté partageant le même foyer. Oui, voilà. Donc c'est famille, mais il y a quand même un côté non affilié, donc du coup tu peux élargir la discussion, enfin élargir cette société avec un rapport du commun. Dans le schéma mandracien, lorsque le paysan se transforme en agriculteur, il perd l'autonomie relative qui caractérisait le paysan au sein des sociétés paysannes et devient un élément parmi d'autres dans la division du travail propre aux sociétés industrielles qui fonctionnent pour l'essentiel sur le mode de l'hétéronomie. Ah, ça, c'est grave intéressant. Cette présentation idéale typique des sociétés paysannes et des sociétés industrielles au sein desquelles le paysan s'est transformé en agriculteur a vertu d'une essentielle, celle de montrer la rationalité propre des sociétés paysannes et par conséquent de ne pas reléguer ces sociétés aux côtés de l'irrationalité. Néanmoins, quelle que soit la finesse de l'analyse proposée par Mendras, ce dernier a finalement rejoint les thèses de ce qui considérait qu'au nom d'une certaine modernité, les paysans devaient disparaître, en montrant qu'une fois que les caractéristiques des sociétés paysannes seraient incompatibles avec celles de la société englobante, ces sociétés seraient absorbées par cette dernière. Ok, donc c'est vraiment une volonté de... Enfin, ça, c'est grave intéressant. C'est vraiment la volonté de détruire la société paysanne pour la faire absorber par le système capitaliste. En gros, je le perçois comme tel. C'est donc finalement au nom du développement que l'on peut définir à la suite de Gilbert Rist, comme un imaginaire propre aux sociétés occidentales que l'effacement des paysans a largement été légitimé et politiquement et sur le plan théorique. Voilà, c'est ça. Tout d'abord, la problématique du développement est inscrite au plus profond de l'imaginaire occidental. Que la croissance ou le progrès puisse se développer infiniment, voilà une affirmation qui distingue radicalement la culture occidentale de toutes les autres. Cette caractéristique, aussi étrange que moderne, détermine entre les peuples une fracture dont la gravité l'emporte largement sur toutes celles qui ont été forgées au cours de l'histoire pour justifier, de manière sociocentrique, la prétendue supériorité de l'Occident. Et là-dessus, il a clairement raison. Hein, c'est, on le voit, la fameuse modernité, la fameuse, le développement. En fait, à partir du moment où tu crées un texte où tu peux dire il y a un développement, c'est qu'il y a un peuple qui est sous-développé. Et du coup, s'il y a un peuple sous-développé, bah, c'est qu'il y a une volonté de pouvoir amener à ce peuple sous-développé des cultures, des bidules, des machins, et voilà, la domination s'installe, quoi. Pour toutes sortes de raisons, qui révèlent notamment de la domination militaire, économique et technique, cette anticipation d'un avenir forcément meilleur grâce à l'accroissement constant des biens produits s'est aujourd'hui répandue partout. Ok, grave, grave intéressant ça. Ça, je vais le noter en vrai complet. Ce passage est très 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 très, très puissant. Comme nous l'avons déjà montré, cet effacement des paysans est inséparable d'une représentation dichotomique des figures du paysan et de l'agriculture. L'agriculteur, pardon. Donc, antagoniste. Représentation qui s'origine dans le déploiement d'un mouvement déjà ancien de transformation des sociétés et des écosystèmes. À cette représentation dichotomique, diachronique, succède aujourd'hui le même type d'analyse dans un cadre synchronique cette fois. Donc synchrone, ouais, ça, synchrone. Partant de l'hypothèse selon laquelle la modernité industrielle est définitivement advenue sur l'ensemble de la planète, certains auteurs reprennent ainsi cette opposition entre le paysan et l'agriculteur. Ah, ça m'étonne pas en vrai. Ce qui est logique en vrai, c'est vrai que ça, même moi, j'avoue, moi le premier, je l'utilise maintenant et je dis que bah, le paysan, c'est celui justement qui est en dehors de l'agriculture conventionnelle. Pour moi, c'est important de faire cette distinction. Elle est importante et émancipateur. Loin d'être définitive, ces trois formes d'organisation du métier agricole qu'incarnent la subsistance, produire pour soi, la ferme, et la firme s'inscrivent dans le prolongement de la trilogie proposée par Redfield et Mandras et qui repose sur le sauvage, le paysan et l'agriculteur. À ceci près que ce nouveau triptyque, contrairement au précédent, ne représente aucune continuité de l'un à l'autre type, offrant davantage une lecture synchronique de réalités profondément dissociées et dispersées à la surface du globe. Ok, ça c'est intéressant ça. Malgré la vertu pédagogique de ces constructions idéales typiques, elles tendent finalement, quelle que soit leur perspective diachronique ou synchronique, à négliger certaines formes hybrides de production agricole, en particulier dans les pays de la vieille Europe. Ces formes hybrides ne sont assimilables ni aux collectivités paysannes décrites par Mandras ou à une agriculture familiale paysanne avec, pour seul horizon, un village assurant l'ensemble des échanges marchands. Ou encore à une agriculture familiale moderne qui se caractérise moins par l'appartenance à un milieu que par le choix d'un métier, donc agriculteur, ni à la figure de l'agriculteur moderne mandracien, coupé de tout lien avec le territoire qu'il cultive à l'image de l'agriculteur de firme qui se développe aujourd'hui. Et rien que le terme, le fait d'avoir dit exploitation agricole, même là la sémantique est puissante, parce qu'à partir du moment où tu es exploitation agricole, c'est que tu exploites et donc du coup, tu rentres dans le rapport de domination capitaliste où soit tu es exploité, soit tu es exploitant. Pour pouvoir vivre mon rêve, il me faut une vaste propriété à la campagne. Bon, après, il me faudra encore que je me préoccupe un couple de tigres. Oula, je ne suis pas convaincu par ça, mais bon. Merde, j'étais où ? L'opposition récurrente entre les paysans et l'agriculteur, entre le local et le global, bref, entre la tradition et la modernité, qu'elle soit diachronique ou synchronique, montre ainsi ses limites pour comprendre de manière approfondie la logique d'une certaine agriculture paysanne contemporaine qui entend dépasser les apories de la modernité industrielle tout en renouant avec la tradition, mais sans pour autant verser dans un traditionnalisme régressif. Oui, en vrai, et ça me fait vraiment penser au texte de Fukuoka hein, sur le livre La révolution d'un seul brin de paille. Pour moi, on est clairement dans cette logique-là. Ça, c'est vraiment un texte qui m'a touché et je pense qu'on peut le connecter. Refusant plus globalement le processus de séparation entre l'universel et le particulier, processus propre à la modernité technoscientifique occidentale, la paysannerie contemporaine s'inscrit ainsi dans une critique radicale du mouvement d'inclusion-exclusion lié au déploiement d'un universalisme dont la mise en œuvre implique celle de la destruction de toutes les formes de particularisme. Comme l'écrit le philosophe Olivier Razak, cette séparation entre le particulier et l'universel laisse à ceux et celles qui sont exclus du processus d'universalisation propre à la modernité, l'extérieur, le dehors, qui peut être partout, en tant qu'il représente l'angle mort de l'inclusion démocratique libérale, le non-lieu du renversement du « faire vivre » biopolitique en indiscret « laisser mourir social ou réel », et pourquoi pas un jour un faire mourir tout aussi discret. En vrai, désolé, hein, mais ce passage-là, pour moi, c'est, en fait, tu peux le connecter avec ce qui s'est passé dans les banlieues, en fait. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'on peut faire un... Merde, on peut faire un sujet qui est tout aussi puissant. Pour moi, le sujet agriculteur-paysan, il a des connexions avec le sujet dans les banlieues. Tu vois. Pour moi, il y a vraiment une connexion à faire. Et là, on le voit, hein, dans les termes évoqués, le fait de s'assimiler, le côté républicain, etc., bah, a provoqué des malaises et dans les campagnes et dans les... Et dans les banlieues. C'est pour ça, vraiment, le livre d'Ouria, je pense, va être utile là-dessus. Parce que Ouria, à mon avis, elle va commencer à installer un discours, enfin, elle va mettre en place un discours là-dessus. Et moi, ça va me permettre de mieux articuler cette pensée-là. Parce que vraiment, entre les violences des paysans qui se font tuer par la police, ou les paysans qui subissent cette violence en leur détruisant leur culture, leur langue, et en leur imposant un mode de vie qu'ils ne veulent pas, on peut avoir une espèce de connexion avec les peuples subalternes dans les enfin des peuples post c'est ça, c'est appelé comme ça, des peuples post-colonisés, un truc comme ça, je sais plus le nom, mais qui subissent aussi en gros les gens dans les gens issus de l'immigration, quoi, qui subissent aussi une forme de d'assimilation et de républicanisme, quoi. Donc très intéressant là-dessus. Mais ils ne sont pas comme nous, ce sont des sauvages inaptes à la modernité. Oui, c'est ça, ouais. Et c'est ça, en fait, ça a intéressant, c'est que les deux, tu vois, c'est ça, ce qui est marrant, c'est que les deux subissent le même discours. La paysannerie et le... Après, pas aussi violent, je pense. La violence du discours est vraiment différente, mais en tout cas, il y a un point de départ à peu près identique de dire « Ah, regardez, c'est des sauvages, ils sont pas modernes, il faut les éduquer, tu vois. » Bon, on peut pas non plus mettre sur un pied d'égalité la violence qu'ont subi les paysans et les gens dans les banlieues, évidemment, mais on peut faire une connexion intéressante pour commencer à reconstruire un discours, quoi. Hop là. Se laisser mourir et se faire mourir caractérise en particulier aujourd'hui le monde agricole qui, dans les pays industrialisés, voit sa population active poursuivre en déclin, son déclin. Donc on rappelle, hein, 400 000 paysans qui vont partir à la retraite d'ici 10 ans. En France, par exemple, selon le dernier recensement agricole, les chefs d'exploitation représentaient moins de 3% de la population active. Le nombre d'exploitations agricoles étant passé de 2,3 millions à 400 000 entre 1955 et 2010. Ah ouais, oh, c'est un truc de ouf, hein. 490 000. Cette disparition silencieuse se réalise dans les faits dans une quasi-indifférence, et ce, malgré les alertes répétées relatives aux impasses de la poursuite de l'industrialisation de l'agriculture. Baisse continue du nombre d'agriculteurs dans un contexte de chômage structurel, crise écologique et sanitaire, etc. Comme nous allons le montrer par la suite, c'est contre la séparation radicale entre particularisme et universalisme, c'est-à-dire entre tradition et modernité, qu'en France, par exemple, les agriculteurs ont travaillé depuis la fin des années 60 à la mise en œuvre d'une autre agriculture qu'ils qualifient eux-mêmes de paysanne et qui tente de réconcilier l'héritage positif de la modernité avec certains rapports à la tradition. Cette agriculture paysanne ne constitue donc pas la défense sans critique de la modernité qui constitue une dynamique de progrès et d'émancipation, mais qui peut s'emballer et devenir irresponsable à l'égard de la terre et indifférente aux humains. Le productivisme, clairement. Histoire de l'agriculture paysanne en France. En France, la notion d'agriculteur paysanne est indissociable du syndicat agricole, la Confédération paysanne, qui l'a apporté dès son origine. Née en 1987, la diffusion de différents courants de ce qu'on appelle la gauche paysanne, l'histoire de la Confédération paysanne remonte aux années 60 avec la création en 65 du Centre régional des jeunes agriculteurs de l'Ouest, CRJAO, et l'année suivante, en 1966, la Fédération régionale des syndicats d'exploitants agricoles de l'Ouest. Bon, il y a encore un autre acronyme. Ces deux mouvements, créés dans l'Ouest de la France, dans des régions d'élevage où la capitalisation, c'est-à-dire les infrastructures, bâtiments d'élevage, salles de traite, etc., étaient particulièrement importants, étendait défendre une position contestataire au sein du syndicalisme agricole qualifié de modernisateur, la FNSEA et la CNJA. Et voilà, garde en tête que les structures comme ça, les structures d'élevage, c'est des structures énormes à partir du moment où tu commences à mettre le doigt dans l'engrenage, t'es aspiré par un espèce de méga-machine, des méga-machines qui en fait te grignotent petit à petit ta liberté, quoi. Cette position visait également à défendre agriculteurs et production de l'Ouest et faire contrepoids aux autres groupes de pression de l'agriculture, au premier rang desquels les céréaliers dont la production bénéficie d'aides importantes, avec la PAC notamment. Au début des années 70, sous l'impulsion de nombreux militants, l'opposition à la politique défendue par les appareils nationaux représentés par la FNSEA et la CNJA se poursuit et voit naître la mouvance des paysans travailleurs. Cette dernière est entre autres impulsée par la figure emblématique de Bernard Lambert, fils de métayer en Loire-Atlantique devenu député MRP, Mouvement Républicain Populaire en 58, qui, en publiant en 70, Les paysans dans la lutte des classes provoque un véritable choc théorique et politique. Oh, faut que je lise direct ça. Oh, futur bouquin, hein, voilà. Voilà, un nouveau bouquin à ajouter à ma liste de lecture. J'en peux plus. Hein. Son ouvrage défend clairement, dans une perspective marxiste, la thèse de la prolétarisation d'une partie de la profession agricole, remettant ainsi en cause l'idée de l'unité du monde paysan et dénonçant le phénomène de paupérisation en agriculture provoqué par le système capitaliste qui destine ces paysans ruinés à jouer un rôle de manœuvre dans le secteur industriel. Le capitaliste organise ses transferts de population pour obtenir la détente sur le marché de l'emploi, comme ils disent, c'est-à-dire le chômage. Et souvent, nous l'avons vu, les paysans pauvres vendent leur force de travail avant même de quitter leur métier. De plus, ils sont indirectement exploités par des agriculteurs capitalistes qui se servent d'eux comme masse de manœuvre pour obtenir des petits prix de vente intéressants pour leur propre production. Voilà. Et on est clairement d'accord, hein, c'est les fameux paysans propriétaires qui exploitent les ouvriers agricoles. Et on l'a vu, hein, ils exploitent aussi les ouvriers agricoles sans papier, dans des conditions déplorables. Et on a lu un truc là-dessus, donc n'hésitez pas à checker. Hein. Pour chaque lecture, c'est 3 livres en plus. Mais oui, je te jure, c'est ça. Hein. En plus, les livres sociologiques ou économiques ont souvent une liste de lecture de référence en annexe. Non mais... Arrête, c'est sourd, mais oui. Je te jure, c'est sans fin, putain, j'ai l'impression que je vais jamais en finir. Tout au long des années 70, un certain nombre de combats rythment la poursuite de l'action de la gauche paysanne. Grève du lait en 72, lutte contre l'extension d'un camp militaire sur le plateau du Larzac avec la marche lancée par les paysans travailleurs des 25 et 26 août 73. Donc ça, on a maté un documentaire pour ceux qui veulent. Vous tapez Larzac sur la chaîne YouTube et il y a un react. Participation du mouvement antinucléaire, Plogoff, etc., etc. La jonction avec différents mouvements sociaux se réalise donc à cette époque. Avec maintenant dans les gares, les portiques comme dans les métros pour le bétail humain. Ouais. La gauche paysanne éclate en deux courants à partir des années 74. D'une part, le courant issu de la mouvance des paysans travailleurs proche du Parti Socialiste Unifié, dirigé par Michel Rocard, et d'une partie de l'extrême gauche. D'autre part, un courant qui reste l'opposition interne à la FNSEA et au SNJA, plus proche du Parti Socialiste PS. L'élection de François Mitterrand à la présidence de la République en 81 bouleverse et accélère les évolutions en cours dans les courants de la gauche paysan moderne. L'alternance politique leur offre une occasion d'institutionnalisation en reconnaissant partiellement le pluralisme de représentation syndicale. Et oui, de toute façon, ça c'est le début du courant libéral et comment le peuple, enfin, comment le gouvernement français s'est complètement libéralisé et du coup a détruit clairement la paysannerie, enfin pas que, hein, mais une partie de la paysannerie en France et puis tout corps de métier qui a subi la libéralisation. C'est ainsi que, la même année, les paysans travailleurs se recomposent avec d'autres mouvements pour donner naissance à la Confédération nationale des syndicats de travailleurs paysans. En 82, la mouvance oppositionnelle interne au syndicalisme agricole officiel crée la Fédération nationale des syndicats paysans. Et wesh, mais il y a combien de noms ? Ainsi, la gauche paysanne a constitué un terreau favorable à la construction d'une autre agriculture. Elle souffre cependant, d'une certaine difficulté à entrer dans le jeu institutionnel et à se regrouper complètement. Ouais, et c'est pour ça qu'on voit maintenant des Beauvais et des Biteaux qui sont à ELV pour parler de tout ça, quoi. Encore une fois, c'est là où il ne faut pas faire trop les gauchistes. C'est que José Beauvais et Benoît Biteaux, peut-être que pour pouvoir être puissants politiquement, ils ont besoin d'entrer dans ces institutions. Et donc, de jouer au jeu, quoi. Ce qui est... on peut leur critiquer, bien sûr, hein, mais il faut le comprendre. Dans les années 1980, un enchaînement d'événements va favoriser son regroupement et son institutionnalisation. Il s'agit, entre autres, des États généraux du développement agricole, EGDA, entre mai 82 et février 83, des élections aux chambres d'agriculture en janvier 83 et de la naissance d'une nouvelle dynamique associative. Les états généraux du développement agricole avaient pour objectif de promouvoir un débat collectif de la base au sommet sur la question du développement agricole. Ils permirent de montrer l'existence d'une très grande diversité de modes de production agricole en France et ainsi de remettre en cause l'unicité d'un mode agricole dont les effets pervers, hyper-spécialisation, pollution par les engrais et les pesticides commençaient à être largement décriés. Ouais, donc vous voyez, on est déjà en 83. On est en 83 et il y a déjà la critique de la consommation de l'agriculture conventionnelle et du coup des problèmes et de santé et d'artificialisation des sols qui étaient déjà mis en avant. Les élections aux chambres d'agriculture déclenchèrent une réflexion à l'intérieur de la gauche syndicale relativement à la nécessité de construire de manière concertée un projet alternatif à la politique de toute puissance FNSEA. Enfin, de nombreuses associations agricoles et rurales se sont recomposées et unies au sein du comité d'études et de liaison des associations à vocation agricole et rurale pour réfléchir à un travail commun sur les questions agricoles et rurales. Oui, logique. Toutes ces dynamiques ainsi que le retour d'une politique de cogestion avec la FNSEA à partir de 1986, lorsque la droite revient au pouvoir, ont créé les conditions d'une institutionnalisation du syndicalisme agricole de gauche avec, en 1987, la création de la Confédération paysanne. Ok, je comprends mieux. Incroyable, let's go. Petit hors sujet, mais dans le livre Un bonheur insoutenable, tous les humains ont une puce dans la main qu'ils scannent par réflexe un peu partout. Livre de 70, et une étude sur l'implantation de la puce est proposée pour la sécurité contre le vol. Ah oui, après, c'est un peu la logique même de la science-fiction, c'est que si ça... Enfin, comment dire? C'est pas que ça réussisse, mais... Un bon créateur de science-fiction, c'est quelqu'un qui voit le futur, quoi. Enfin, je sais pas, en vrai, je pense pas, mais ouais, c'est intéressant. Moi. Merci pour ton message. Mais oui, mais en vrai, il y a plein de livres de science-fiction qui ont pas mal devancé les situations. Hein. La promotion d'une agriculture paysanne s'est construite progressivement au cours des années 80 pour déboucher au début des années 90 sur un projet cohérent. Ah donc, en vrai, c'est assez récent, du coup. On voit que la promotion de l'agriculture paysanne, c'est vraiment récent. Et du coup, je comprends pourquoi c'est pris en main par les néo... Enfin, pas pris en main, mais pourquoi les néo-ruraux arrivent à bien s'initier là-dedans. Parce que c'est un truc qui est récent et qui a eu... Vu qu'il y a, il y a eu carrément... je crois que c'est... Ouais, il y a eu 40 ans de destruction du savoir ancestral paysan, voire même plus. Hein, ça a permis, du coup, de pouvoir réinventer le truc, quoi. Plus précisément, en 84, des paysans appartenant aux différents courants qui vont constituer... Par la suite, la Confédération paysanne crée la Fédération associative pour le développement de l'emploi agricole et rural, dont l'objectif est de favoriser le développement d'une agriculture paysanne. Pour ses protagonistes, l'agriculture paysanne marque l'opposition à l'agriculture d'entreprise productiviste revendiquée par la FNSEA. Elle devient à la fois l'objectif d'une autre politique agricole et une démarche professionnelle concrète témoignant de la justesse du propos et de la faisabilité du projet. Let's go. Pardon, et en vrai, les gens en Confédération paysanne, ils sont vraiment, vraiment, vraiment solides. Pour le coup, là. Les contours de cette agriculture sont esquissés lors des différentes rencontres, et particulièrement lors des journées d'Etchari en 90, lors des journées de Saint-Lô en 93, journées à l'issue desquelles se créaient dans toute la France des groupes agriculture paysanne, lors des journées de Vogue, en 1995, portant sur le thème « Maîtriser le progrès pour un développement durable », de celle de Bordeaux en 96 et enfin lors du colloque qui s'est tenu à Rambouille en 98, colloque au cours duquel la charte de l'agriculture paysanne est rendue publique. Et garde en tête vraiment les gens à l'époque que le terme développement durable, avant qu'il soit pris en main par les libéraux, avait une vraie puissance politique et c'est juste qu'il a été complètement dénaturé et transformé de sa contenance, quoi. De sa contenance, mais à la base c'est vraiment un terme qui a une vraie pertinence. Cette charte comprend entre autres 10 principes qui fixent le projet politique de l'agriculture paysanne. Ah, let's go! Ces derniers se déclinent de la manière suivante. Confédération paysanne. Premier point. Répartir les volumes de production afin de permettre au plus grand nombre d'accéder au métier et d'en vivre. Oh oui, oui! Deuxième point. Être solidaire des paysans et des autres régions d'Europe et du monde. Troisième point. Respecter la nature. On n'hérite pas la terre de nos parents, on l'emprunte à nos enfants. Tellement basé. Tellement basé, oui. Quatrième point, valoriser les ressources abondantes et économiser les ressources rares. Ouais, basé aussi. Cinquième point, rechercher la transparence dans les actes d'achat, de production et de transformation et de vente des produits agricoles. Sixième point, assurer la bonne qualité gustative et sanitaire des produits. Septième point, viser le maximum d'autonomie dans le fonctionnement des exploitations agricoles. Clairement d'accord aussi. Huitième point, rechercher des partenaires avec d'autres acteurs du monde rural. Neuvième point, maintenir la diversité des populations animales élevées et des variétés végétales cultivées. Ça, c'est tellement important. Et on s'est fait baiser avec les semences sous catalogue, semences OGM stériles. Ça, on s'est vraiment fait baiser pour le coup. Et dixième point, toujours raisonner à long terme et de manière globale. L'agriculture paysanne constitue donc à la fois un projet de résistance par rapport à l'agriculture d'entreprise prônée par le syndicalisme agricole majoritaire et une alternative en matière de mode de production, clairement inspirée de principes écologiques cohérents. Est basée hein, la charte. Hein. Depuis les années 90, la poursuite de ce que l'on nomme aujourd'hui la crise du productivisme agricole pousse les pouvoirs publics à l'ensemble de la profession agricole à réorienter partiellement les objectifs assignés à l'agriculture française. C'est dans ce contexte et au moment où la politique agricole commune, PAC, instaure pour la première fois dans ses orientations des mesures agri-environnementales, MAE, que le syndicalisme agricole majoritaire crée, avec l'aide de l'industrie phytosanitaire, le forum pour une agriculture raisonnée et respectueuse de l'environnement. FAR. Ah, ok, putain, c'est intéressant ça. Semences standardisées égale financiarisation de l'agriculture. Oui, globalement c'est ça. Et du coup, imprégnation du capitalisme dans la logique agricole. C'est exactement ça, ouais. Ça c'est chiant, je commence à avoir les doigts qui gèlent quoi. J'ai trop froid aux doigts. Pas pratique, mais bon, c'est pas grave. Vivement la fin de l'article. Ce dernier introduit la mise en œuvre d'une agriculture qui vise à raisonner les apports d'intrants, mais sans véritablement remettre en cause la logique technicienne de l'agriculture productiviste. L'agriculture raisonnée est progressivement soutenue par le ministère de l'Agriculture et acquiert ainsi une reconnaissance officielle au début des années 2000. Ok, donc il y a quand même eu une institutionnalisation. Ainsi, l'environnement institutionnel porteur de l'industrialisation de l'agriculture, étant très peu favorable à la réorientation significative de cette dernière et à celle de la PAC, les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou de gauche, n'ont pas cherché à infléchir véritablement la poursuite du productivisme agricole. Logique, hein, mouvement libéral, ça, c'est pas étonnant, que ça soit gauche ou droite libérale. Par conséquent, toutes les initiatives portées sur le terrain par différentes structures promouvant une agriculture paysanne ou durable finissent par être mises en commun en 2001 avec la création du réseau interassociatif Impact, initiative pour l'agriculture citoyenne et territoriale. Ok, là je savais pas ça. Ce réseau regroupe toutes les démarches alternatives au productivisme agricole en rassemblant des organismes associatifs de développement créés entre la fin des années 70 et le milieu des années 90. C'est à toi Zimmer. Organismes portés par des agriculteurs qui, pour la plupart d'entre eux, sont engagés dans les organisations syndicales de la gauche paysanne, dans le mouvement associatif agricole, rural et environnementaliste. Et plus globalement dans les luttes sociales qui ont marqué l'histoire de la constitution de la Confédération paysanne. Tous ces groupes de développement, membres du réseau Impact, promeuvent, de manière parfois très aboutie sur le plan des référentiels techniques produits, ce qui n'est pas systématiquement le cas chez les membres de la Confédération paysanne qui adhèrent avant tout à un projet syndical sans pouvoir forcément mettre en œuvre parce qu'ils sont trop dépendants d'un système global qui les contraint des systèmes de production moins dépendants des énergies fossiles, des pratiques agricoles plus économes et plus autonomes. Ouais, ça c'est vrai que c'est la grosse différence et c'est pour ça que j'aime beaucoup le combat de la Confédération paysanne, c'est qu'il y a vraiment cette logique de sortir de la logique de production fossile quoi, et ça c'est un combat qui est très très noble à l'heure actuelle, surtout bah, pour la question de la décroissance et même la question aussi de décolonial, qu'il faut qu'on sorte de la question enfin il faut qu'on sorte de l'utilisation du pétrole pour produire notre nourriture. Et c'est Bito hein, qui disait avant même d'allumer le contact de ton tracteur, t'as déjà consommé des quantités astronomiques de pétrole. C'est bien quand tu synthétises un peu parce que mon cerveau est déjà en PLS. Ouais, bah, j'essaie de le faire au mieux, mais après là, c'est des trucs pas très très intéressants. Hop, ça va bien et toi, Zimmer ? Installe-toi bien. Les cahiers techniques de l'agriculture durable, publiés par le réseau Agriculture Durable, RAD, qui regroupe près de 3000 éleveurs en rupture avec le modèle agricole breton, constituent un exemple de la construction de normes techniques différentes de celles de l'agriculture productiviste. Pour moi, c'est un truc historique, là, il n'y a pas très très truc de très intéressant. Ce qui relie finalement toutes ces agricultures différentes face au modèle agricole dominant, c'est la volonté de mettre en œuvre un autre type de développement agricole, au nord comme au sud, le projet des agriculteurs du nord étant intrinsèquement lié à celui des agriculteurs du sud. Voilà. Et ça, je pense que c'est très important de le dire, de rappeler que les travailleurs du nord et du sud sont connectés et intrinsèquement connectés. Du coup, si l'un se modifie, l'autre est aussi répercuté. Cette volonté, cette volonté se manifeste par un engagement important des agriculteurs de la Confédération paysanne, où qu'ils sont proches, dans le mouvement altermondialiste, engagement qui a progressivement fait de la question internationale, en particulier en matière de politique agricole, un enjeu syndical. Et on a vu hein, hier chez Wissam, Youssef a montré justement des photos de José Bové qui était en Palestine en train de, bah, justement, de lutter politiquement contre Israël à la Palestine. Donc, voilà, le mouvement altermondialiste a été puissant à un moment de la vie, à un moment de l'histoire. Malheureusement, c'est vrai qu'il a plus ou moins disparu. Et bon, est-ce que c'est la libéralisation? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? C'est une question qui est intéressante à développer. Cette implication s'origine dans la double tradition à laquelle appartiennent tous ces agriculteurs. Une tradition chrétienne d'abord, puisque la plupart d'entre eux ont connu directement ou indirectement par leurs parents la jeunesse agricole catholique. Et sont engagés aujourd'hui dans des organisations chrétiennes comme le Comité catholique contre la faim et pour le développement, CCFD. Une tradition marxiste ensuite héritée du mouvement des paysans travailleurs. Et moi je vous avoue, le côté catholique là, avec genre le truc sur l'abbé Pierre, en vrai de vrai, ça me fait trop kiffer. Hein. Ça me saoule d'être un laïcard débile et j'ai vraiment... aucune spiritualité, parce que vraiment ça me ferait, j'ai presque un affect en me disant oh, vas-y go, j'ai envie de devenir un curé ou je sais pas quelle connerie là, et d'intégrer les mouvements politiques religieux quoi. Ces deux héritages ont permis de forger une sensibilité internationale solidariste pardon, voire internationaliste chez les agriculteurs concernés, qui participent pour certains d'entre eux à la coordination paysanne européenne et au mouvement paysan international Via Campesina. Ah, très basé Via Campesina. Il en parlait justement, Youssef, hier. Ce dernier regroupe des paysans, des fermes, des jeunes ruraux et des peuples indigènes dans 69 pays d'Asie, Afrique, Europe et d'Amérique. Le nouvel abbé Pierre. Ouais, en vrai, c'est vrai que c'est un personnage qui m'intrigue de ouf et j'ai énormément de respect. Et j'aimerais bien, moi, me dire, putain, mais comment tu peux réussir à être un personnage aussi important, tu vois. C'est des questions qui me touchent. Et c'est vrai que là, même quand tu regardes la théologie de la libération... Quand tu regardes les discours de Jacques Ellul et compagnie, j'ai beau ne pas être chrétien, ne pas être croyant, c'est des affects qui me touchent tellement, tu vois. Et c'est vraiment la théologie, la religion. Pourtant, je suis vraiment un pur laïcard. Hein. Mais je sais pas, ça m'intéresse de ouf. Agriculture paysanne dans la modernité. Comme nous venons de le montrer, l'agriculture paysanne, telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui en France, repose sur une rationalité tout à fait différente de celle de l'agriculture productiviste, ou de son équivalent actuel, dans le contexte d'intégration de l'environnement dans les politiques agricoles, l'agriculture raisonnée. Selon ses protagonistes, en s'opposant à la rationalité technicienne et instrumentale de l'agriculture productiviste, l'agriculture paysanne réinvente à partir de la tradition au sens positif du terme, et de la technique. Elle réinvente une nouvelle manière de produire respectueuse de l'environnement. Elle réinvente un nouveau rapport à l'économie en misant sur l'optimum de valeur ajoutée pour assurer le revenu. Elle imagine et recrée des relations de proximité avec le consommateur et réhabilite le métier de paysan. Elle réinvente la solidarité locale et participe à la vie du pays. Voilà. Et ça c'est une partie qui va être très très importante dans mon discours, que j'aimerais bien mettre en place et développer, mais du coup qu'il soit un truc incluant, inclusif. Parce que bah, le problème, c'est que là, les espèces d'AMAP et compagnie, c'est pas inclusif. En tout cas, c'est pas facilement inclusif. Donc l'idée, c'est de construire un discours comme ça, que je trouve très pertinent, mais d'intégrer... Alors, si, je sais pas si on intègre les banlieues, je sais pas comment on peut intégrer ça, mais en tout cas d'intégrer de la diversité quoi. Et ça c'est un truc qui me touche, et je vais essayer de construire un discours autour de ça. Cette description de l'agriculture paysanne correspond par ailleurs dans l'imaginaire de la société française à un retour d'une image positive du terme paysan, clairement. Dans la France de ce début du 21e siècle, l'image des agriculteurs reste largement associée à la défense de la diversité culturelle, écologique et territoriale, chère à la rhétorique du développement durable. Cette récurrence de l'évocation du ruralisme reste fréquente en politique et elle ne peut s'expliquer seulement par la démagogie. Elle est symptomatique de l'attachement d'une partie des Français à une conception patrimoniale et identitaire du territoire dans laquelle les pays continuent d'occuper une place particulière, celle du producteur d'aliments qui prenne soin de l'espace qu'il cultive. Ah, c'est intéressant ça, parce que je suis pas forcément d'accord avec le côté identitaire, tu vois, du territoire, mais à voir comment il le construit. Mais j'aime bien ce passage-là. Je suis pas forcément d'accord avec tout, mais je trouve intéressant. Les paysans sont pas dans ce genre de discours. Pour le moment, en tout cas. De quoi... Ah oui, bien sûr, oui. Mais c'est pour ça, en vrai, la dernière fois, on avait maté un. Il y a un festival de films paysans qui va se passer là bientôt. Et justement, il y a un documentaire sur des. Je crois que c'est des éleveurs ou non, des paysans qui vont voir justement des banlieues et qui vont expliquer à des gamins à côté de la banlieue. En gros, il va à un centre commercial. Et en fait, c'est tout un collectif de jeunes de banlieue, je sais plus, c'est en 93, je crois, qui vont justement s'intéresser aux questions de la paysannerie, des champs, du foncier. Tout en se questionnant sur l'apport d'un magasin et en gros en essayant de le savoir bah, est-ce que c'est utile ou pas. En vrai c'est hyper intéressant de voir voilà comment ils ont réussi à amener des jeunes qui ne seraient pas forcément intéressés à ça et réussir à connecter tu vois. Tu l'as vu? Ok, attends, je l'ai pas encore vu, moi il m'intéresse de ouf. Mais il est trop intéressant ce documentaire. Enfin, j'aimerais bien le mater. Ce retour est en partie lié à la critique des effets pervers du productivisme, critique largement médiatisée depuis la fin des années 90. Et le démontage le 12 août 1999 du McDonald's en construction au Milo. Pareil, on a vu un documentaire là-dessus pour ceux qui veulent. Comme en témoigne la production de nombreux documentaires à destination du grand public sur ces questions. We Feed the World, Le Monde selon Monsanto et Notre Poison au quotidien, 2011. Cette image positive qui associe de nouveaux paysans au terroir pardon, qu'ils cultivent, au paysage qu'ils façonnent ou au territoire qu'ils aménagent participe à la multiplication des modes de consommation de produits alimentaires marqués par cette identité paysanne territorialisée dans le cadre d'une consommation engagée. Ouais. On est d'accord. Ah oui, on avait vu le pré-chat. Oui, ok, oui, on l'avait vu ensemble, mais je veux dire, je pensais que tu avais vu le documentaire. Le développement des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne à MAP depuis le début des années 2000 en constitue un exemple parmi d'autres. Les AMAP reposent sur un engagement mutuel entre un groupe de consommateurs et un producteur qui leur livre des paniers de saison. Le plus souvent des fruits et des légumes, mais pas exclusivement, payés à l'avance. Et donc là, on a clairement la définition de ce qu'est une AMAP. Les consommateurs peuvent ainsi aisément identifier les produits agricoles qu'ils consomment, connaître le territoire où ils sont produits, en se rendant chez le producteur avec lequel ils sont associés pour visiter sa ferme, voire pour participer ponctuellement aux travaux des champs, et en particulier à la cueillette des fruits ou des légumes. Les AMAP participent en ce sens à un système d'achat-vente que l'on peut qualifier de commerce équitable Nord-Nord, qui permet par ailleurs de mettre en œuvre les principes de l'agriculture paysanne. J'aime bien le terme Nord-Nord là-dedans. J'aime bien la petite nuance. D'ailleurs, depuis 2003, le terme d'AMAP est déposé à l'Institut national de la propriété intellectuelle. Et dès lors, le droit d'utiliser ce terme est lié au respect de la charte des AMAP, qui fait référence à l'agriculture paysanne telle qu'elle est définie par la Confédération paysanne. Ah, ok, je savais pas ça. Je ne savais pas. Très intéressant. Il s'agit ainsi avant tout de participer à une relocalisation de la production afin de contrecarrer les effets néfastes de l'agriculture productiviste, qui fonctionne souvent indépendamment d'un territoire particulier, en valorisant les productions hors sol qui constituent l'archétype. On est d'accord. Cette volonté de relocaliser la production s'inscrit par ailleurs dans les dynamiques plus larges qui réunissent paysans, écologistes, consommateurs à l'image de l'Alliance paysan-écologiste-consommateur créée en 1991 à l'échelle nationale. Bon. Intéressant. Après, en vrai, non, en vrai, c'est intéressant à voir comment tu peux construire ça sur un truc un peu plus globalisé. Mais oui, le combat est noble. Sa création, à la veille de la réforme de la PAC de 92, avait pour objectif de mobiliser la société civile sur la préparation de cette réforme. Depuis, des alliances régionales et départementales ont été créées et travaillent avec la Confédération paysanne, le réseau des AMAP, les groupements d'agriculteurs biologiques et certaines associations écologistes. Toutes ces initiatives alimentent d'autres mouvements paysans qui, dans le réseau droit paysan, militent pour le droit à la ruralité et le droit à l'espace minimum d'existence, en se référant à l'activité vivrière inhérente aux droits fondamentaux et plus précisément celui de se nourrir. Oh, je sais pas ça. Hyper intéressant, ça. Hop. Je vais mettre de côté. Non, en vrai, je vais le mettre de côté. Bon, vivement la fin, il reste que quelques pages là, je commence à fatiguer. Ce réseau, né en Ariège en 98, réunit RIMST, chômeurs, agriculteurs biologiques, artistes, etc., qui militent pour l'obtention d'une terre et d'un toit. Du point de vue des pratiques concrètes, l'agriculture paysanne procède d'une critique de la technique qui s'inscrit dans la construction d'un projet que l'on peut qualifier, à la suite de Michael Lowy, de nostalgique utopique. Ah, j'aime bien ça. Lowy, très intéressant, on a lu pas mal d'articles de Michael Lowy, très 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 bon. Le terme nostalgique renvoie ici à la protestation d'une une révolte contre la civilisation moderne, la civilisation industrielle, la civilisation capitaliste, le monde de la marchandise et de l'argent. Contre le désenchantement du monde, la disparition de toute dimension communautaire de la vie humaine, une protestation contre la mécanisation et la qualification du monde, de la société, des rapports humains soumis à la règle de la quantité. Le oui en 93, incroyable. Je suis tellement d'accord avec ça. Cette nostalgie n'est pas régressive, mais est utopique, en ce qu'elle opère un détour par le passé, mais vers l'avenir, vers l'utopie. Cette critique non régressive de la technique repose sur un certain rapport au vivant qui s'incarne en particulier dans le combat contre les organismes génétiquement modifiés. Voilà. Et ça, je suis vraiment d'accord avec cette posture. C'est pour ça que les OGM, avant même d'être un problème de santé, c'est surtout un problème d'éthique et du vivant, tu vois. Et je pense qu'il faut le voir comme tel. Et aussi, le rapport, bah, c'est un outil capitaliste, c'est un outil au moderniste. Voilà, c'est un outil qui favorise les technologies qui ne sont pas émancipateurs, mais qui sont aliénantes. Ainsi, selon Yves Mangui, paysan cofondateur de la Confédération nationale pour la défense des semences de ferme et du réseau de semences paysannes, les OGM, par le biais des brevets, deviennent l'ultime recours des firmes de l'agro-industrie pour s'approprier définitivement le vivant. Parce que cette technologie totalitaire inclut un modèle d'agriculture destructeur des paysans et des sols, toutes nos forces doivent être mobilisées pour les faire barrage. Voilà. Et là, je suis clairement d'accord avec ça. C'est pour ça que moi, je critique les OGM sur ce pan de critique, quoi, sur cette étape-là. Les OGM constituent donc, pour eux, qui défendent l'agriculture paysanne, l'exemple même de la mise sous dépendance et donc de la perte d'autonomie des agriculteurs. Voilà, la dépossession des moyens de production. La reconquête de l'autonomie passe donc d'abord par une réappropriation du vivant, par l'utilisation de semences produites à la ferme, ou par la sélection des semences par les agriculteurs eux-mêmes, les semences paysannes. Ainsi, la création du réseau semences paysannes est liée à une volonté portée par certains mouvements agricoles de se réapproprier les choix et les savoir-faire liés au travail technique de la semence. En effet, la professionnalisation d'après-guerre, de la sélection, de la multiplication et de la commercialisation des semences et des plants a abouti à une externalisation de ces activités hors de la ferme et à un désinvestissement des agriculteurs vis-à-vis de l'évolution du vivant. Ah, c'est intéressant ça. En gros, oui, vu qu'on a tout séparé les corps de métier paysans, on les a dispatchés dans différents trucs. Alors, je vais exagérer, mais celui qui laboure, celui qui sème, celui qui récolte et celui qui fait les semences, bah, du coup, le savoir a été un peu diminué, perdu. Et du coup, il faut réussir à retrouver et réintégrer au sein du métier de paysan celui de faire de la semence. Ça devrait être au sein de ton métier, tu devrais faire ça. Mais vu qu'à l'heure actuelle, les paysans, ils sont tellement remplis pour faire de la paperasse, pour faire des conneries comme ça, mais ils n'ont pas forcément le temps de s'intéresser à ce genre de choses. C'est aussi ça qui est malheureusement une des grosses problématiques. Savoir égale pouvoir, exactement. Pour les acteurs de ce mouvement, interroger le bien fondé des variétés améliorées, modernes, constitue un élément particulièrement significatif de la remise en question de l'orientation productiviste de l'agriculture. À la fois parce que l'amélioration des variétés représente, avec la mécanisation et l'utilisation croissante d'intrants, l'un des piliers sur lesquels s'est fondée l'augmentation de la productivité agricole. Et parce que la semence est considérée comme un cœur de leur métier. Voilà, l'outil quoi. La semence, c'est l'outil du paysan. La reconquête de l'autonomie passe également par un rapport au travail qui constitue plus une œuvre, au sens du terme, c'est-à-dire une production de biens dont la valeur est aussi esthétique et dont la capacité de durer. Ok, là j'avoue, je maîtrise pas Arendt là-dessus. C'est ce sens que le travail paysan, bras mort des sciences sociales du travail, ne peut pas être analysé sauf à la reléguer du côté des pratiques considérées comme irrationnelles à l'aune de la rentabilité de la reproduction sans fin d'une activité éphémère et aliénante telle qu'elle est souvent pratiquée dans l'agriculture productiviste, comme le montre par exemple l'enquête de Patrick Herrmann sur le travail des saisonniers agricoles. Ouais, l'exploitation du travail agricole, enfin des saisonniers, c'est un enfer sur Terre aussi. Hein. Moi, mon père m'a appris plein de choses en agriculture, let's go. Mon père un petit peu aussi, mais pas assez malheureusement pour monter une ferme, quoi. Mais j'ai quand même pas mal de petites bases, quoi. On n'en finira pas de dégrainer la liste des exactions commises contre la main-d'œuvre, souvent étrangère, qui travaille dans les champs, les vergers et les serres, quel que soit le continent. La réapparition de la servitude, voire de l'esclavage sur nos territoires occidentaux, n'est que l'aboutissement ultime des systèmes d'emploi indispensables au bon fonctionnement de l'agriculture intensive, l'excroissance traumatisante de cette logique. Oui, mais tellement basé. Vraiment basé. Attends, c'est qui a écrit ça? Je vais mettre le nom du gars, Patrick Herman. Basé de ouf. Hein. Par ailleurs, le rapport au travail qui caractérise l'agriculture paysanne favorise la diversification des activités. Vente directe, tourisme à la ferme, etc. Dans les exploitations agricoles concernées. Et on peut aussi penser réinsertion aussi. Pour ceux qui sont un peu anti-carcéralisme, la réinsertion des prisonniers, enfin des gens qui ont fait des délits et des crimes dans les métiers paysans. Or, dans une société où l'agriculture ne cesse de perdre des emplois, les exploitations agricoles qui pratiquent le tourisme à la ferme... Oh, let's go! Putain, vous finissez tard. Merci beaucoup, Moufette. Installez-vous bien, les gens. On est en train de lire un article trop stylé, mais je commence à être fatigué. Mais une dinguerie, un article très très bien sur les paysans et la modernité. Et on essaye de voir si on peut construire un discours un peu... Bah voilà, les discours liés au quartier populaire, à la banlieue, les populations issues de l'immigration. Et aussi avec une espèce de connexion avec les paysans, quoi. Et on voit, il y a des termes, par exemple, comme l'ensauvagement, comme le fait qu'ils aient perdu leur savoir. Bah voilà, ça fait un peu des parallèles avec, du coup, les populations issues de l'immigration, les populations post-colonisées. Et je pense qu'il y a une connexion à faire. Et du coup, là on lit un article sur ça. On essaye de voir si on peut construire des connexions. Et je trouve qu'il y a un sujet qui est hyper intéressant. Et voilà. Donc là, c'est vraiment l'histoire des paysans et comment... Bah, la modernité a détruit le travail paysan en le transformant en exploitant agricole. Et du coup, comment cette modernité, elle a aussi eu les mêmes travers avec l'assimilation, le républicanisme, etc. Voilà. Donc installez-vous bien, les gens. En vrai, en 2023, je vais me lancer sur Twitch et il y aura 3 streams semaine sur la semence, culture, récolte. Ah, let's go, Zimmer, trop bien. Installez-vous bien, les gens. Ici, on est sur... donc, on fait des streams sur l'écologie, notamment. Puis là, on parle vraiment de la paysannerie. Nous avons appris à être des vrais hommes bien virils. Ah, let's go! Bienvenue les hommes de la mascu Moufette Vision. Merci beaucoup. Ah, pardon, j'ai pas remercié. Merci beaucoup, du coup, Moufette, pour le raid. Parce que là, je suis parti dans un tunnel. Merci infiniment, Rétian, pour l'abonnement. Je vais dodo, repose-toi bien. Mais en vrai, matez la VOD et matez le passage que je la mettrai sur YouTube. Donc, matez la VOD au pire des cas. Merci beaucoup à Rétian et merci beaucoup à Palmina. Merci infiniment pour les abonnements. Merci beaucoup, les gens. Vous gérez. Hop là, du coup, je recommande. Alors, or, dans une société où l'agriculture ne cesse de perdre des emplois, les exploitations agricoles qui pratiquent le tourisme à la ferme, la vente directe et la transformation de produits fermiers ou encore des prestations de services freinent légèrement ce mouvement en mobilisant plus d'emplois par exploitation que les autres. Ainsi, lors du recensement agricole de 88, les exploitations agricoles diversifiées embauchaient 1,5 UTA, unité de travailleurs annuels, par exploitation contre 1,3 pour les exploitations non diversifiées. Et pareil, en gros là, ça a parlé, pour ceux qui viennent d'arriver, ça a parlé du rapport du fait que les ouvriers agricoles, qui sont souvent du coup des travailleurs immigrés, ont subi aussi cette violence du capitalisme et cette violence de la modernité. Lors du recensement agricole de 2000, cet écart s'est creusé avec 2,1 UTA, donc en gros unité agricole, en moyenne pour les exploitations diversifiées contre 1,3 pour les autres. En outre, ces exploitations agricoles favorisent l'emploi féminin dans l'exploitation même, car les activités de diversification sont souvent assurées par des femmes. Par ailleurs, parce qu'elles sont souvent orientées vers des productions moins exigeantes en investissant ou en nécessitant des équipements peu coûteux, ces structures, en mobilisant moins de capitaux, sont plus facilement transmissibles, ce qui permet de favoriser l'installation et l'emploi. Ok, en gros là c'est retour à des petites fermes avec des modes de travaux différents, quoi. Ceux qui se reconnectent à poil dans un étang entre hommes. Oula. Enfin, les agriculteurs qui travaillent ont souvent un niveau de formation plus élevé et sont ouverts à d'autres milieux sociaux, ce qui facilite les échanges entre le milieu agricole et le reste de la société. Ouais, alors ça, à nuancer, je suis d'accord dans l'ensemble, hein, mais à nuancer quand même, hein, ça reste un milieu qui est quand même globalement divisé, enfin pas divisé, mais qui est quand même isolé, notamment parce que quand tu es... déjà, si t'es éleveur, t'es baisé. En vrai, pour moi, là, c'est faudrait rajouter quoi, les agriculteurs, on va dire bourgeois ou riches, quoi, Mais les ouvriers agricoles, ils restent des prolétaires, il n'y a pas forcément une connexion plus que ça. Donc je sais pas, là j'avoue, je suis pas du tout convaincu par ce passage-là. La reconquête de l'autonomie passe enfin, et plus globalement, pardon, par le choix de systèmes de production agricole qui ne rentrent pas dans un modèle préformaté, mais qui au contraire représentent la diversité biologique, l'agroécologique et culturelle en s'opposant à l'uniformité du monde agricole productiviste. Et voilà, et en vrai ça c'est quelque chose qui m'a fait prendre conscience. J'étais assez réticent de la permaculture. Je trouvais ça, voilà, j'ai eu beaucoup des grosses critiques. Et en fait, ce qui m'a permis de comprendre la permaculture comme un outil important, c'est de le voir comme un outil comme une praxis. En fait, la permaculture, c'est une praxis, c'est vraiment de la théorie mise en pratique. Et du coup, moi, ce qui m'agace dans la permaculture, c'est le développement personnel autour de la permaculture. Parce qu'ils te vendent un espèce de processus qui va fonctionner parce que tu vas appliquer telle ou telle manière. Non, c'est faux. La permaculture, vraiment, la praxis même, c'est de t'arrives sur un terrain, tu analyses ton terrain, et des fois, tu vas faire tout l'opposé de ce qui est mis en place. Alors, je dis pas que tout le monde fait ça. Il y a des mecs qui appliquent la permaculture de bonne manière, évidemment, mais il y a aussi des vrais escrocs, quoi. Et c'est pour ça que moi, je critique vraiment le côté développement perso, libéral de la permaculture, évidemment. En mode, les agriculteurs sont surdiplômés par rapport à leurs milieux sociaux. Ouais, je sais pas, moi, je comprends l'idée, hein, mais je suis pas fan. Ouais, bon, là, genre, l'article est vraiment, vraiment loin. Regardez, je vous mets cette petite alerte. Voilà.
Wow, il y en a des mots.
Du coup, c'est en ce sens que l'agriculture paysanne est intensive en savoir-faire écologique, mais non intensive dans l'utilisation d'intrants manufacturés. Le respect de cette diversité suppose une reconnaissance des projets atypiques en agriculture et de l'accès associé au foncier. Voilà, et ça, c'est un des gros problèmes. Moi, j'aimerais bien faire ça, mais vu que je n'ai pas accès au foncier, bah, je ne peux pas devenir paysan, tu vois. C'est-à-dire des projets qui ne rentrent pas dans les normes imposées, entre autres pour bénéficier des aides à l'installation par la profession agricole majoritaire, FNSEA et SNJA, devenus depuis 2001 jeunes agriculteurs, JA, chambre d'agriculture, etc. Donc ça, je suis clairement d'accord, et malheureusement, bah, le foncier est relativement compliqué à avoir. Ou alors, il faut faire des grosses démarches, et je suis pas encore prêt à faire ça. La création, en 2003, de l'association Terre de Liens va dans ce sens. Cette association a pour objectif d'accompagner les démarches collectives en matière d'acquisition du foncier. Malheureusement, qui est un peu gangréné par l'anthroposophie, ce qui pose problème. Elle s'appuie pour cela, depuis 2006, sur un outil de finance solidaire, la foncière Terre des Liens, pour acquérir des terres et des bâtiments qui sont susceptibles d'être loués et des porteurs de projets socialement, écologiquement et économiquement pérennes. Oui, enfin, la permaculture, ça fait des siècles que c'est utilisé dans des petites fermes. Non, mais en fait, non, les gens, la permaculture, c'est de la merde. Enfin, bref, ça m'agace. J'ai même pas envie d'en parler, en fait. La permaculture, ça a été créé par deux Australiens, et avant, ça a été basé sur la pensée de Fukuoka. En vrai de vrai, c'est juste une culture paysanne, quoi. C'est la culture vivrière, basta, quoi. À la base, la permaculture, c'est pas une rotation sur les champs. Non, non, la permaculture, c'est juste un. En fait, c'est une philosophie. La permaculture, c'est vraiment une philosophie basée sur le savoir ancestral, notamment autochtone, qui a été bien, bien effacée, quoi. C'est pour ça que je suis assez réticent sur le terme de permaculture, que je n'aime pas le terme. Et du coup, regardez, je vous mets, hein, pour ceux qui veulent, vous pouvez lire ça, hein. Je ne suis pas à l'aise avec cette question-là. En fait, c'est juste de l'agriculture vivrière, de l'agriculture paysanne, et voilà, arrêtez de vendre ça en mode, oh là là, c'est la nouveauté. Non, c'est juste du savoir paysan ancestral. Et du coup, le zaï, c'est pas de la permaculture. La technique japonaise, c'est pas de la permaculture. C'est des modes ancrés dans les territoires qui ne sont pas des termes précis, quoi. La permaculture n'a rien de nouveau, exactement. C'est pour ça que la permaculture, c'est une philosophie qui se transforme en praxis. C'est juste, c'est ça. C'est pas une méthode agricole, c'est une praxis. Vraiment, ça, il faut le comprendre, en fait. Vous confondez agriculture vivrière et permaculture. Voilà, c'est ça, exactement, c'est ça, Cyril, c'est ça. Bref, on continue. La mise en œuvre de ces projets atypiques rencontre des obstacles, en ce particulier dans les territoires périurbains, fortement touchés par la pression foncière, comme l'Île-de-France. Elle incite néanmoins à réfléchir au rôle que peut jouer aujourd'hui l'agriculture paysanne dans la société. Merci pour le follow, Grapp. Le développement de l'agriculture paysanne repose donc finalement sur la reconnaissance d'un autre rapport de l'homme à la nature, qui, sans idéaliser une nature non anthropophisée, reconnaît qu'il faut rompre avec une logique prédatrice qu'entretient l'homme avec la nature, logique qui s'est considérablement accélérée au cours du XXe siècle. Là, on peut penser à la logique animiste et compagnie, radicalement, mais pas que. La nécessité de cette rupture est aujourd'hui largement partagée par l'État, la profession agricole, le monde de la recherche, etc. Bon, largement, je suis pas convaincu non plus, hein. Et est défendu sous la bannière du développement durable. Alors là, moi, désolé, je suis pas convaincu que ce passage-là. Ou alors de manière pas très radicale, ouais. Mais bon, je suis pas hyper convaincu. Néanmoins, le qualificatif de durabilité du développement est utilisé par les gouvernements et les élites pour perpétuer leur domination, outil de reproduction sociale ou bien approprié par les marges paysannes qui s'y trouvent de nouveaux arguments pour remettre en cause l'ordre établi, outil de contestation. Voilà, ok. Et là, par contre, je suis d'accord. Avec cette critique-là, je suis vraiment d'accord. Ça a été manipulé par l'État. Permaculture, c'est pas genre tu organises la structure de ta zone de culture pour que ça tourne de façon plus naturelle en termes de temps de productif de ouf. Oui, voilà, c'est en gros, c'est ça, Darren Live. En gros, la permaculture, c'est de intégrer au sein de ta vie, dans la consommation, culture, réculter l'eau, la nature, l'environnement. Bref, c'est toute une logique d'intégrer ça dans ta philosophie de vie, quoi. C'est pour ça qu'on appelle ça une praxis, c'est mettre en pratique une théorie qui, du coup, est unique à chaque territoire, à chaque personne et à chaque ferme. C'est un truc qui est complètement unique à chaque endroit. Et du coup, les gens qui vous disent vous pouvez copier ça, 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 bah c'est faux, quoi. Enfin, c'est pas que c'est faux, mais c'est un peu, tu dénatures le propos, quoi. J'étais dans le modèle permaculture, c'est rationnel, mais là, ça me fait peur. Certains sont dans le modèle macroniste. Oui, mais bien sûr, parce que c'est intégré par la logique libérale, évidemment. On comprend ainsi mieux pourquoi l'agriculture productiviste continue sa marche forcée à travers, en particulier, la mise en œuvre d'une politique agricole européenne qui, malgré des réformes successives visant à intégrer les préoccupations environnementales dans l'agriculture, continue à être particulièrement défavorable au projet d'une agriculture paysanne et moderne, dont les valeurs sont contradictoires avec la poursuite de la production de l'ordre social dominant. Ces valeurs s'incarnent sur le plan politique dans la réflexion menée par les différentes plateformes d'échange et en particulier, depuis 2008, par le groupe PAC 2013. Ce dernier constitue un espace de discussion entre les associations ou organisations non gouvernementales environnementalistes, les Amis de la Terre, Agir pour l'Environnement, etc. Basé, hein, ces trucs-là sont vraiment basés. Des syndicats agricoles critiques du productivisme, Confédération Paysanne, Fédération Nationale d'Agriculture Biologique et Fédération de France. Ou encore les organisations travaillant pour le développement, encore un autre acronyme, à propos de la réorientation de la politique agricole européenne vers des objectifs de souveraineté alimentaire, de protection de l'environnement et de développement rural. Il s'agit par conséquent de réfléchir à la mise en œuvre d'un projet politique global pour soutenir les agricultures paysannes qui ne constituent pour l'heure que des solutions locales et un désordre global comme le montre très bien le documentaire de Colin Serrault, Solutions locales pour désordre global. Oh tiens, j'irai checker ça, c'est intéressant. Et du reste, oubliez pas, hein, demain, on mate un documentaire, deux Belges vont à la ZAD, et c'est pas une blague. Voilà, donc demain soir, documentaire sur le stream. Tu m'en fous de tes cultures pour que ça aille, par contre, pas contre la nature, mais dans le sens de la nature, pour que tu aies pas à lutter avec les produits. Oui, mais voilà, mais en vrai, tu vois, Darren Live, ce que tu viens de dire là, bah, c'est ce que Fukuoka explique dans son livre La révolution d'un seul brin de paille. Et en fait, il le fait 100 fois mieux que la permaculture, quoi. Alors, désolé, hein, mais la méthode agricole de Fukuoka dans La révolution d'un seul brin de paille, elle est 100 fois plus pertinente que la permaculture, hein. Conclusion. En France, l'agriculture paysanne représente aujourd'hui une alternative aux impasses d'une certaine conception de la modernité qui se réduisait à la fois quasi illimitée dans la science et la technique, ainsi qu'à la domination et l'exploitation de la nature par l'homme. Elle constitue en ce sens une activité qui participe au dépassement d'une modernité dévoyée qui s'incarne dans le processus sans horizon de l'agriculture productiviste. Comme l'a montré dans les années 70, la socio-anthropologue Michèle Salmona, cette activité artisanale ou agricole ne relève pas uniquement de conduites mentales propres à la rationalité. Les stratégies et les pratiques qui sous-tendent l'action quotidienne, celle du potier pour maîtriser le feu, la terre, la température du four, celle de l'éleveur d'huîtres. Merci beaucoup Palmina pour les 100 bits, merci infiniment. Qui joue avec la multitude de facteurs de la mer, du vent, celle de l'éleveur qui travaille avec la vie et la mort de l'animal, tiennent compte de multiples aléas et intègrent ces aléas à l'action quotidienne à long terme. Du reste, allez voir Aléa la Biblie, la Queen, voilà voilà. Je commence à fatiguer, j'ai pas tout compris le passage là. Et c'est la raison pour laquelle l'agriculture paysanne contemporaine est d'une certaine manière en avance sur son temps. Plus moderne que l'agriculture manufacturière, qui parvient de moins en moins à repousser les limites sociales et écologiques qu'elle a elle-même engendrées. Néanmoins, en dépit de sa cohérence et des issues qu'elle offre aux impasses de productivisme, la question demeure de la possibilité de l'agriculture paysanne à déployer l'ensemble de ses promesses en dehors d'une civilisation paysanne sacrifiée par notre société structurellement orientée par la recherche perpétuelle d'économie de travail et de domination illimitée des écosystèmes. Et ça, c'est tellement vrai. Genre, la limite de l'agriculture paysanne, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est pas bandeur, ça fait pas rêver en vrai. L'agriculture paysanne, ça fait en mode, oui bon, vous êtes des utopistes de merde quoi. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai, il y a un vrai combat culturel à mener, et il faut rendre désirable la culture paysanne et rendre désirable ce monde-là quoi. Ah bah j'espère que ça vous a plu comme article, vraiment une dinguerie l'article. Hein. Putain, il était incroyable.